le monde, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable après le luxe. Et donc, notre intérêt n'est pas politique, pas idéologique, c'est un intérêt purement économique.
Plus de 90% de notre chiffre d'affaires se fait en dehors de France. Donc, on voit mal en quoi une activité que je rangerais plutôt, en ce qui me concerne, du côté du mécénat, peut nous donner une influence quelconque en ce qui concerne la marge de nos affaires.
Bon, je ne nous fais pas la liste des magazines, télé, radio, quotidiens que possèdent nos milliardaires, je n'ai pas le temps. Le problème, c'est la concentration des médias dans une poignée de main. Le lieu, c'est le Sénat, une commission d'enquête. Cette semaine, début des fascinantes auditions des deux industriels, Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Créer des empires médiatiques? Mais bien sûr que non. Il ne s'agit ni d'influence, ni de politique, seulement d'économie, nous ont-ils expliqué, avec deux analyses dont on a pu apprécier à l'instant la divergence. Les médias, c'est hyper rentable, dit Vincent Bolloré, quand Bernard Arnault appelle cela du mécénat. Une chose est sûre, en France, sans les milliardaires, de nombreux titres auraient disparu. Et c'est d'ailleurs le premier problème, le modèle économique. Le second problème, c'est le capital. Peut-on dissocier la propriété et le pouvoir? Est-ce que jouer sur les aides à la presse serait efficace? Faut-il créer des fondations, un fonds? Oui, sait-on jamais, il y aurait un problème démocratique, peut-être. Et puis bien sûr, si on met tous ces garde-fous, les chevaliers blancs seraient-ils aussi nombreux? La commission doit rendre son rapport en mars. En attendant, on pourra aussi suivre les auditions de Patrick Drahi, Martin Bouygues, Xavier Niel et Arnaud Lagardère. Ce sont les sénateurs qui pourraient faire des pics d'audience.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, c'est économie. Nous en parlons ensemble jusqu'à 10h. Notre invitée ce samedi, c'est la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Rendez-vous avec elle, interview dans une grosse demi-heure. Depuis le 1er janvier, dans les communes, les agents doivent tous être aux 35 heures. Très souvent, ça signifie abandonner des acquis sociaux. C'est une négociation délicate, parfois un bras de fer. Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. Madame Vioboulot est avec nous. Vous lui avez laissé une question, des questions sur le site de l'émission. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Que veut savoir Nabil, notre auditeur?
Une question très simple. Comment se faire payer ses RTT pour ne pas les perdre?
Réponse juste avant 10h. Tout de suite, je salue les débatteurs. Bonjour et bienvenue Marc Vigneault.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes journaliste au Point et face à vous, évidemment, Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour.
Éditorialiste à Alternatives économiques.
Qui n'appartient à aucun milliardaire.
Qui est une scope, mais tout le monde ne peut pas être une scope, Christian.
Et qui appartient à ses salariés et à ses abonnés.
Le gouvernement limite la hausse des prix de l'électricité à 4% cette année, c'est notre sujet. Comment fait-il? Ce samedi, nous passons au Rayon X, une entreprise dont nous sommes tous actionnaires. Tiens, EDF.
L'État fait un peu les poches d'EDF.
L'État a demandé un effort à EDF de 8 milliards d'euros.
On va passer de 100 à 120 TWh que l'énergéticien va devoir céder à 46 euros le mégawattheure au lieu d'environ 250 euros sur le marché actuellement.
Nous avons pris des nouvelles mesures puisque nous avions déjà annoncé une baisse de la taxe principale sur l'électricité au maximum.
Barbara Pompili.
Mais cette baisse n'était pas suffisante pour permettre de garantir ces 4%.
Ministre de la Transition écologique.
Donc nous avons décidé avec Bruno Le Maire de demander à EDF d'augmenter le volume d'électricité à bon marché qu'ils vendent à leurs concurrents, qui sont les fournisseurs alternatifs, pour pouvoir bénéficier de plus d'électricité bon marché.
Attention, c'est pas une bonne nouvelle pour EDF, qui vit une semaine noire.
EDF va augmenter de 20% la quantité d'électricité à prix cassé qu'ils vendent à ses concurrents.
Les fournisseurs répercuteront intégralement cet avantage au bénéfice du consommateur. Cela va faire l'objet d'une surveillance étroite.
La décision de baisser la TICFE, c'est 8 milliards pour le budget de l'État. La deuxième décision qui est prise sur EDF, c'est à nouveau 8 milliards, mais cette fois dans les comptes de l'entreprise.
Christian Saint-Étienne, économiste, professeur au CNAM.
Qu'est-ce qui se passe le 10 avril? Est-ce qu'il n'y aurait pas le premier tour de l'élection présidentielle? Donc moi, je propose que les 2 fois 8 milliards soient rajoutés au compte de campagne du président de la République.
Oui, l'EBITDA, la marge. EDF va baisser de 8 milliards.
Jean-François Carenco.
Ce n'est pas vrai qu'on pille EDF.
Président de la commission de régulation de l'énergie.
Juste, ils auront moins à gagner. On a partagé l'effort à faire en 3. Consommateurs, 4%. État, près de 10 milliards. EDF, 8 milliards.
On va aller vers un monde dans lequel...
Patrice Geoffroy.
De plus en plus, l'électricité sera renouvelable.
Professeur d'économie à Paris Dauphine.
Et donc va dépendre du vent et du soleil de plus en plus. Et on pourra se retrouver à des moments avec un surcroît d'électricité, donc avec une électricité qui sera peu chère. Et au contraire, des moments de tension. Et donc, il faudra gagner en agilité. Ce n'est pas exactement le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Donc, ça annonce de grandes transformations.
Et ce matin, dans On n'arrête pas l'écho, on explique les miracles. Alors, Marc Vigneault, je me tourne vers vous. Le gouvernement veut plafonner la hausse du tarif de l'électricité à 4% au 1er février. Si on laissait faire le marché, ça devrait être, nous dit le régulateur, plus de 44% sur la facture en réalité. Donc, plus de 10 fois plus. Bon alors, racontez-nous comment on fait, comment on réussit ce tour de force.
Oui, Alexandra, c'est vrai que c'est un écart énorme qu'il faut combler. Et donc, le gouvernement, comme on l'a entendu, a actionné deux leviers. Le premier levier, c'est la bonne vieille baisse d'impôts, baisse de taxes. Donc, c'est un impôt qui s'appelle la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc là, 8 milliards de baisses. Mais en fait, le gouvernement, c'était le premier levier qu'il avait activé. Il s'est rendu compte, ça ne va pas suffire puisque les prix évoluent constamment sur le marché de l'électricité, le marché de gros de l'électricité en Europe. Et donc, il s'est dit, il va falloir absolument tenir ces 4% qu'on a annoncés peut-être imprudemment. Et donc, deuxième levier, demander un effort à EDF, puisque l'État, visiblement, n'a pas jugé bon d'activer d'autres leviers dont on pourra parler. Et donc, ce deuxième levier, c'est de dire à EDF, vous allez vendre votre électricité nucléaire, l'électricité aux concurrents pour que les concurrents puissent appliquer ce tarif à leurs propres clients. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'était pas à un tel volume. Et donc là, le gouvernement...
Parce que c'est un prix demande... spécial, hein,
voilà,
l'électricité,
c'est un prix.
Oui.
Alors avant, c'était 42 euros et maintenant, c'est 46 euros. Et c'est beaucoup moins cher que le prix appliqué sur le marché. Et donc EDF va être obligé de donner son énergie nucléaire pas cher, enfin de la vendre à ses concurrents afin que ses concurrents puissent le répercuter sur la facture du consommateur.
Et
le paradoxe incroyable, ouais, c'est que EDF a prévendu cette électricité puisqu'il n'était pas au courant, il l'a vendue sur le marché.
Et très donc, cher donc.
Il l'a vendue très cher et maintenant il va être obligé de racheter de l'électricité très cher sur le marché pour aller fournir des concurrents qui eux ne produisent pas vraiment d'électricité. Donc il y a quelque chose d'ubuesque là-dedans.
Alors avant de revenir sur cette ubuesque, évidemment c'est ce qui nous intéresse. Christian, est-ce que ça va concerner tous les Français? Est-ce que ça va marcher ce petit miracle?
Bah ça c'est une bonne question Alexandra, parce que le
merci.
Gouvernement nous l'a quand même vendu sur le thème je fais ça pour aider les foyers les plus modestes, hein, parce que les pauvres, eux, généralement ils habitent plutôt dans des passoires énergétiques, donc leur facture énergétique coûte beaucoup plus cher. C'est le syndrome traumatique des gilets jaunes d'un côté, dès que les prix du carburant, l'électricité augmentent, oulala. Et de l'autre côté, il y a quand même des élections qui approchent dans 4 mois. Mais en fait, ça profite à tous, pas seulement aux plus modestes. Tous les consommateurs d'électricité vont profiter de la baisse. Il se trouve que par un heureux hasard, tous les consommateurs d'électricité sont aussi des électeurs et des électrices. Donc ça fait du bien à tout le monde. Plus attention, c'est pas qu'une question entre les ménages modestes et les ménages pauvres, c'est que, et les ménages plus aisés, c'est que il y a certaines entreprises qui, avec l'augmentation du prix de l'électricité, commençaient à réduire leur production d'aluminium, de zinc, etc., etc. Ça veut dire que l'industrie automobile, l'industrie aéronautique commence à avoir des problèmes parce que les matières premières n'arrivaient pas.
On en a parlé ici, Christian. Oui, il y a des usines qui baissaient leur production, voire qui préféraient faire produire dans d'autres pays où c'était moins cher.
Et donc, qui en profite? Tout le monde du côté des ménages, mais aussi les entreprises, parce que ça permet de faire tourner l'économie.
Et d'ailleurs, le gouvernement explique que s'il n'avait pas pris cette décision, il se défend, il dit, si on n'avait pas pris cette décision, des centaines de milliers d'entreprises, c'est le chiffre que j'ai entendu, pourraient aller au tapis ou produire complètement ailleurs, s'arrêter, ça pourrait enclencher la spirale inflationniste puisque les prix augmenteraient dans l'industrie et donc il fallait absolument stopper cette mécanique-là.
Ouais, c'est difficile à savoir parce qu'il y a un principe un regroupement qui s'appelle Exeltium, c'est-à-dire toutes les industries très électro-intensives en France peuvent avoir de l'électricité au prix qu'a indiqué tout à l'heure Marc, c'est-à-dire à 46,20 € maintenant.
Alors la polémique cette semaine, maintenant qu'on a expliqué ça, c'est est-ce qu'on traite bien EDF? Est-ce qu'on est en train de lui faire les poches, de saigner EDF? Bref, on voit bien qu'en interne ça ne passe pas au plus haut niveau, Marc.
Oui, oui, ça passe pas du tout parce que effectivement, EDF se dit mais je suis complètement spolié, j'ai énormément d'investissements à faire puisqu'il va falloir éventuellement construire des centrales nucléaires dans le cadre de la transition énergétique.
Absolument. Pas sûr.
Attention, vous avez
En tout cas, c'est le discours d'EDF et donc si bon, s'ils les construisent pas, tant mieux parce que ça veut dire qu'ils auront moins d'argent à dépenser, mais ils auront aussi de la transition énergétique dans le renouvelable à faire, donc il y a aussi de l'argent à dépenser. Mais donc ils disent nous on est spolié, on s'y attendait pas. On va devoir racheter de l'électricité plus chère et c'est à l'État, ça aurait été à l'État de faire un effort. Et tous les concurrents d'Emmanuel Macron disent bah oui, il y avait des solutions alternatives. On aurait pu baisser la TVA par exemple. Alors au gouvernement, on répond bah non, la TVA, on pouvait la baisser, mais ça n'aurait pas du tout suffi à bloquer les tarifs à 4% comme on le fait. Et en plus, l'État par ailleurs a aidé beaucoup ces dernières années EDF et donc EDF ne pouvait pas se faire du beurre sur le dos des Français. C'est vraiment l'expression qu'on emploie au gouvernement, que EDF voulait vraiment se faire de la laine sur le dos des Français et que c'est normal que quand le prix de l'électricité explose à un tel point pour des raisons très, très particulières, que EDF fasse un effort.
C'est normal de demander un effort à EDF. Voilà, c'est ce que dit le gouvernement.
Exactement, et l'État sera toujours derrière EDF puisque l'État, c'est le premier actionnaire. Et on suggère que l'État fera ce qu'il faut pour EDF et que c'était le seul mécanisme assez puissant qui permette de bloquer cette hausse.
Christian Chavagneux, deux choses dans ce que dit Marc. C'était le seul mécanisme assez puissant et puis on n'est pas du tout en train de saigner EDF. Ils gagnent beaucoup d'argent sur les marchés, c'est normal qu'on lui demande...
Les deux sont vrais. D'un côté, c'est une entreprise qui, en période normale, produit à peu près 400 TWh par an. Ça a échappé à personne qu'elle a des problèmes avec ses réacteurs nucléaires en ce moment parce qu'ils sont un peu vieux. Donc cette année, les experts nous disent qu'elle va produire 300, un peu plus de 300, donc vraiment un quart de moins. Comme l'a dit Marc tout à l'heure, elle va être obligée d'en vendre 120 à ses concurrents. Plus, elle en vend aussi à ce tarif très très bas à RTE parce qu'il y a des pertes en ligne. Plus les fameuses industries électro-intensives dont je parlais tout à l'heure. Bref, quasi la moitié de sa production. EDF, cette année, va être obligée de vendre quasi la moitié de sa production à 46,20 €, alors que la Cour des comptes nous a dit, en gros, le coût du nucléaire historique, c'est 50 €. Donc, elle va vendre la perte. Donc, on avait dit, waouh, ils ont raison de se plaindre. En même temps, EDF vend aussi sur ce marché où les prix explosent. Et quand on va avoir les résultats d'EDF de 2021, on va s'apercevoir, à mon avis, qu'ils ont fait pas mal de profits. Qu'en 2022 aussi, finalement, EDF va faire pas mal de profits. Ce que dit le gouvernement, c'est vous aurez moins de manque, enfin, vous allez avoir un manque à gagner. Vous allez faire moins de profits que ce que vous auriez fait compte tenu de l'évolution des prix.
En quelque sorte, pour EDF, c'était une manne providentielle. Ils comptaient sur cette manne providentielle et on leur dit, ah ben non, la manne providentielle, finalement, vous allez en avoir que la moitié.
Partager.
Mais c'est vrai qu'EDF était dans une mauvaise condition financière et donc cette manne providentielle, c'était un petit peu, c'était magique, ça tombait du ciel et il fallait absolument pouvoir la garder.
Bon, bah donc il se retrouve, EDF va se retrouver avec
une plus petite manne, mais elle est toujours là.
Elle est toujours là. Alors quand même, cette histoire, ça nous pose des questions, Christian Chavagneux, parce que j'ai entendu un analyste financier qui dit, mais franchement, on se demande ce qu'EDF fait en bourse. Parce que si EDF n'est pas si perdant, ce que vous tendez tous les deux à me dire, peut-être que les petits actionnaires, parce que l'État c'est 84%, mais il reste donc 16% qui sont à d'autres actionnaires privés.
La fourniture d'électricité, c'est un service public. Ça n'a rien à faire dans le privé. Il y avait une position de monopole qui était justifiée. C'est une fausse concurrence qui a été mise en œuvre il y a depuis une dizaine d'années sous contrôle de Bruxelles. En fait, il y a très peu de concurrents d'EDF qui sont des producteurs d'électricité. C'est juste une concurrence avec des marchands, des traders, des gens qui vont récupérer l'argent, le nucléaire que leur vend EDF à 46,20 € pour essayer de leur vendre sur les marchés. Hier après-midi, quand j'ai regardé, c'était entre 190 et 260 le mégawattheure. Donc ils vont se faire un beurre extraordinaire pour ceux qui ont bien parié. Pour ceux qui ont mal parié, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout la surface financière pour aller acheter cette électricité pour la fournir. Leclerc Énergie est mort, ces Cdiscount Energy est mort. Quand il faut aller chercher sur les marchés, vous n'avez pas la surface financière. Eh bien, cette concurrence, on voit qu'elle disparaît complètement. La libéralisation du marché de l'électricité, c'est en fait devenu un marché ça fait de l'électricité en France un marché de spéculation financière. C'est ça qu'il faut arrêter.
Alors, ça, c'est vrai, Christian, que les fournisseurs alternatifs n'ont pas développé comme prévu. On pensait qu'ils allaient pouvoir développer des sources d'énergie alternatives, qu'ils allaient pouvoir investir dans des sources propres, etc. Donc ça ne s'est pas fait. En revanche, quand quand EDF est sur le marché, quand même, ça permet de lever de l'argent. Hein. Alors là, ça a fait chuter le cours de bourse, donc ça va être plus difficile de lever de l'argent. Enfin, la dernière recapitalisation d'EDF, hein, ça a coûté quand même 3 milliards d'euros à l'État. Bah, il y a quand même 1 milliard qui est venu du marché. Hein. Donc on est aussi content de pouvoir faire appel au marché pour alléger un petit peu la facture de l'État. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va falloir que l'État recapitalise EDF d'une manière ou d'une autre.
On marche sur la tête, Marc. On marche sur la tête. On libéralise. On oblige EDF à donner de l'argent pas cher à des concurrents. Après, ça pose des problèmes. Après, il faut recapitaliser. Il n'y avait qu'à pas ouvrir à la concurrence et laisser le monopole. On n'aurait pas les problèmes.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, l'interconnexion du marché européen et l'idée d'instaurer un peu de concurrence sur le marché européen, c'est défendu par des tas de pays parce que ça peut avoir des mécanismes vertueux. Il y a plein de pays qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des circonstances très particulières en ce moment. Encore une fois, marché de l'électricité européen, ça permet à EDF de vendre de l'électricité nucléaire qui produit à 55 euros à des tarifs qui sont en général bien plus élevés. Ça lui permet d'exporter l'électricité quand on a des excédents. Ça lui permet d'importer quand les réacteurs sont un peu moins en fonctionnement. Et donc, il y a quand même une certaine vertu à avoir un marché européen interconnecté.
Je comprends, mais l'énergie, c'est pas un produit de marché. C'est pas un produit banal. C'est un bien économique. Ça sert le pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises. C'est un bien social de première nécessité. On peut pas laisser ça au marché. C'est un bien environnemental. Le marché ne peut pas assurer tout ça.
On voit bien qu'on laisse pas ça au marché puisque l'État intervient et d'ailleurs on le critique pour son intervention.
Heureusement.
Est-ce qu'il nous reste une minute? Je voudrais juste dire un mot de la campagne. On parle beaucoup du mix énergétique, les candidats. Est-ce qu'il faut plus de nucléaire, plus de renouvelables? Avez-vous entendu Marc Christian, en un instant, des choses qui vous ont intéressé, des propositions sur les prix de l'énergie? Christian Chavagneux.
Après l'effondrement du prix de la production des énergies renouvelables, on commence à avoir une tendance à la baisse du coût de stockage de l'énergie renouvelable. Donc la dynamique est à la baisse du coût de l'énergie renouvelable. Donc tous les candidats qui poussent à avoir plus de renouvelables poussent à avoir un prix de l'énergie plus bas. À l'inverse, avec les EPR de Flamanville et celui d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Je vous rappelle que à Hinkley Point au Royaume-Uni, l'énergie nucléaire, ça va être à 104 euros quand la Cour des comptes nous dit que c'est à 50 euros le nucléaire historique. Donc, c'est explosif du prix du nucléaire. Donc tous ceux qui choisissent le nucléaire, c'est
plus de prix
de l'énergie.
Donc vous êtes toujours sur le mix. Allez, Marc Vigneault.
Alors Christian, d'abord, c'est comme quand on a commencé les panneaux solaires. L'énergie, on l'a subventionné énormément. Là, c'est une nouvelle génération du nucléaire. Donc c'est sûr, ça marche pas très bien. Mais en fait, il suffit de regarder le rapport de RTE, qui est le rapport qui fait référence. Ouais. On montre que il y a des paris technologiques pour faire un mix 100% renouvelable qui ne sont pas sûrs d'être atteints. Le prix de l'énergie renouvelable est moins cher, c'est sûr. Mais en fait, il faut des capacités de stockage et tout un tas d'adaptations du réseau, puisque c'est alternatif comme énergie, qui fait qu'à la fin, ça coûte plus cher.
Non.
Donc, à la fin, ça coûte plus cher.
Non.
Et
autre
par
débat.
Ailleurs, si on veut réindustrialiser le pays, il n'y a aucun scénario qui se passe de nucléaire. Aucun.
Christian Chavagneux et Marc Vigneault, les débatteurs de ce samedi. Merci. À présent, je vous emmène ailleurs voir l'économie comme elle se transforme en Allemagne.
Es stimmt wirklich, die 10-jährige Bundesanleihe, die wirft zum ersten Mal seit Mai 2019 wieder eine positive Rendite ab.
La journaliste du Handelsblatt, qui est le principal journal économique et financier outre-Rhin, nous a dit que c'était la nouvelle de la semaine. Le Bund à 10 ans, on parle finance, on parle taux, hein, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel l'État allemand emprunte pour une durée de 10 ans, est repassé cette semaine, mercredi, en territoire positif. Ça faisait 3 ans quasiment que les investisseurs acceptaient un rendement négatif, donc de perdre de l'argent pour acheter ces obligations allemandes. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra et bonjour à toutes et à tous.
Ludovic, si ce taux reste au-dessus de zéro, ça veut dire que les bons élèves de la zone euro devront de nouveau mettre la main à la poche pour emprunter. Ils en disent quoi, les Allemands ?
La nouvelle est plutôt bien accueillie. Les commentaires dans l'ensemble associent la hausse des taux à quelque chose de positif pour l'investisseur. Cela signifie un meilleur rendement. Et pour l'Allemagne, oui, cela veut dire recommencer à rémunérer ses prêteurs. Personne ne sera choqué en entendant cela. C'est un peu la fin de l'argent facile, l'argent magique. Ce qui se passe, c'est un retour à la normale, dit-on ici. Normalisierung. Combien de fois suis-je tombé dans la presse spécialisée, les sites d'information financière sur ce mot allemand pas difficile à comprendre? Cette normalisation était même, je vais vous dire, assez attendue ici. L'Allemagne, dont l'emprunt à 10 ans est considéré comme le meilleur, le maître étalon, son taux sert de référence dans la zone euro, eh bien, il est le dernier à basculer en territoire positif, plusieurs semaines après la France, plusieurs mois après les États-Unis. Pour tous ces États, tourner la page des taux négatifs, cela augure d'une sortie de crise. C'est le signe que les effets néfastes de la pandémie s'éloignent, l'économie repart, avec elle l'inflation, c'est un élément de nature à faire gonfler le taux, et alourdir la charge de la dette. Ça dépendra des pays, ça dépend du niveau de l'inflation. Je lis que dans un premier temps, au moins jusqu'à la fin de l'année, avec un taux qui va rester très proche de zéro, ça ne devrait pas changer grand-chose aux finances publiques allemandes.
Ludovic Piétenu avec nous de Berlin. 9h32 sur France Inter. Allez, retour en France. Ce matin, rouvrons ensemble le dossier du temps de travail pour faire le zoom sur la dernière bataille des 35 heures. Oui, celle qui se joue dans les mairies. La date butoir pour y passer à ces 35 heures, c'était le 1er janvier. Notre reporter Claire Chaudière nous emmène ce matin en Bourgogne, à Sens, 27 000 Sénonais, c'est le nom des habitants. Une commune qui fait partie des bons élèves, qui s'y est pris en avance. Les 35 heures là-bas, c'est fait depuis 2 ans pour les 850 agents municipaux, comme Dimitri, que l'on rencontre là, dans le centre technique, un centre qui réunit la propreté, la voirie, la menuiserie et la régie événementielle.
Il y a un petit balai, un va-et-vient de petits camions, il y avait un...
Bah oui, ça, forcément, ça circule. Hein. Les gens vont sur plusieurs chantiers. Les gens travaillent.
On va laisser passer le camion.
Là, je suis pour lui. Dimitri, moi je travaille à la régie événementielle. Je prends mon exemple personnel. Quand je monte une scène ou à certains moments, on est donc plusieurs pour monter la scène, etc. Et à la fin du travail, il n'y a plus que 2 personnes qui ont besoin de visser ou par contre on s'est déplacé à plusieurs camions, etc. Et puis on entend souvent, voilà, c'est comme à DDE, il y en a un qui bosse, les 3 qui regardent. Mais bon, c'est le travail qui veut ça. À certains moments, les gens, ils voient toujours au moment où on s'arrête. De toute façon, ils supportent pas qu'on s'arrête, c'est leurs impôts. Et... voilà, ça, on l'entend régulièrement.
Et donc vous, vos horaires ont changé depuis 2 ans?
Oui, on fait une demi-heure de plus par semaine. Pour le service, c'est intéressant, on va dire, puisque nous, on intervient surtout pour les événements qui ont lieu souvent le week-end. Donc on était amené le vendredi soir à faire des heures supplémentaires après 16h, que maintenant, bah, pendant 1h30, on fait encore notre temps de travail normal.
Alors qu'avant, c'était compté en heures sup.
En heures supplémentaires, oui.
Et globalement, vous diriez que finalement, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui de ce temps de travail?
Non, on n'en parle plus beaucoup. Enfin, après, les nouveaux arrivants, ils n'ont pas connu ce qui se passait avant. Donc pour eux, c'est ni plus ni moins que ce pourquoi ils ont signé, quoi. Les anciens, ils n'ont pas l'impression d'avoir signé pour ça, c'est sûr. Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour les collectivités et mon salaire net, il est de 1 400 €. Quoi. Ouais, au bout de 20 ans. Donc après, bon, c'est pour certains, c'est bien payé. Pour d'autres, c'est moins bien payé. Pour moi, c'est très modeste.
L'argent comme le temps, ça fait partie de l'équation. Alors pourquoi la majorité des fonctionnaires territoriaux ne faisaient pas 35 heures, c'est-à-dire 1607 heures par an, mais en moyenne 45 heures de moins? Historiquement, ça s'explique. Depuis le milieu des années 80, les maires avaient gagné le droit de régler tout seuls cet équilibre entre leur position d'employeur et celle de garant de la paix sociale. Autrement dit, aujourd'hui, pour revenir au temps de travail légal, comme l'exige la loi de 2019, les agents doivent le plus souvent renoncer à des acquis sociaux. Où en est-on à présent de ces négociations? Qu'est-ce qui est mis en face sur la table comme compensation à Sens, par exemple? Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été gagné? Nous retrouvons Claire Chaudière dans le local de la CGT.
Bonjour.
Je m'appelle Julien Grimaud et je suis le secrétaire général des territoriaux Ville de Sens et Comité d'agglomération du Grand Sénonais. Au tout début, ça a été très compliqué. Il y a eu des gros mouvements de grève quand même qui ont eu lieu au niveau de la collectivité, hein, puisque j'ai souvenir d'une grève qui avait rassemblé plus de 150 agents dans la cour de la Poterne à l'époque. Donc voilà, au début, c'était compliqué en fait pour les agents de comprendre qu'on leur demandait de travailler plus alors qu'ils avaient l'impression déjà d'être débordés et qu'on leur en demandait encore plus, du coup, en sacrifiant notamment aussi des fameux jours de congé qu'on appelait les journées du maire à l'époque. Alors, les journées du maire étaient des jours de congés exceptionnels, en fait, qui avaient été accordés au fur et à mesure du temps par des précédentes mandatures, en fait, des maires. Problème qu'on a rencontré quand on a essayé de voir un petit peu, nous, quelle était la légalité de ces journées, c'est qu'on ne retrouvait pas forcément les textes ou les arrêtés municipaux qui attestaient, en fait, de l'octroi de ces jours supplémentaires de congés. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a dû malheureusement abandonner 8 journées du maire, du coup, au niveau de la collectivité. Mais bien sûr, pour nous, il n'était pas simplement question de perdre des choses. Il a fallu trouver un terrain d'entente, du coup, avec la collectivité. Et les dialogues sociaux donc, qui ont lieu ont permis, en fait, de demander d'une part à l'agent de travailler un peu plus à raison d'une demi-heure sur son cycle de travail hebdomadaire. Mais en contrepartie, on a réussi à obtenir que ces agents bénéficiaient de RTT supplémentaires, du coup, par rapport à ceux qu'ils avaient auparavant, à raison de 3 jours de RTT supplémentaires par ces nouveaux rythmes de travail. Mais bien sûr, d'un métier à un autre dans la fonction publique, voilà, on ne peut pas réellement être sur les mêmes bases. J'ai envie de dire, un agent administratif n'aura pas les mêmes difficultés, par exemple, qu'un agent technique qui peut être sur le terrain très tôt le matin, voilà, dans des conditions souvent voilà, plus physiques dans tous les cas. Donc, il y avait beaucoup d'acquis sociaux qui était historique finalement au sein de la ville de Sens. Et c'est vrai que tout a disparu d'un coup suite à ce retour de la Cour des comptes. Mais voilà, aujourd'hui, bon, on sent que ça a été quand même quelque chose d'accepté dans tous les cas, voilà, au moindre mal, j'ai envie de dire.
Un moindre mal, mais tout de même donc une perte sèche de plusieurs jours non travaillés, héritée des grandes vagues de décentralisation à partir des années 70. Alors comment expliquer que le climat social n'ait pas été plus tendu au final ? Pour comprendre comment a été mené ce dossier pour le moins délicat, direction la mairie, nous sommes dans le bureau de la DRH Géraldine Duverne, qui a ressorti ses archives.
Merci, Karine. On a vraiment intégré ça dans un dialogue social très important. On a aussi fait comprendre aux agents que, de toute façon, à un moment donné, ces jours-là allaient être supprimés, que ça pouvait être très brutal. C'est ce que rencontrent certaines collectivités aujourd'hui, celles qui n'ont pas anticipé. On a aussi présenté ça comme une amélioration du service public. Et il y a quand même beaucoup de conscience professionnelle chez les agents, donc c'est aussi un argument de taille. Et puis, bien sûr, on a apporté en contrepartie des améliorations et financières et sur les conditions de travail des agents. On a revalorisé la valeur des tickets restaurants et puis on a aussi participé aux dépenses de prévoyance santé des agents, c'est-à-dire au maintien de salaire.
Donc ces revalorisations salariales vous ont coûté combien ?
Alors si on prend tout en compte, on est à peu près à 500 000 euros par an. Il faut quand même le relativiser puisque en contrepartie, on a quand même, nous, de notre côté, récupéré 10 jours de travail sur 850 agents. Si on veut être dans de la négociation, il faut avoir des choses à proposer.
De l'argent.
Oui, principalement de l'argent. En tout cas, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. On a encore aujourd'hui une prime inflation. Nous, on a 60-70% de notre personnel qui va percevoir cette prime parce qu'on a des salaires qui sont assez bas. Donc, effectivement, c'est ce qu'attendent les agents. C'est une revalorisation du pouvoir d'achat en contrepartie d'avantages qui sont supprimés. Avec la crise sanitaire, le Covid, le confinement, on s'est dit que heureusement qu'on l'avait fait en amont et qu'on avait un peu anticipé les choses parce qu'aujourd'hui, on a des agents qui sont un peu fatigués. Et je pense que venir aujourd'hui en disant que merci pour tout ce que vous avez fait pendant la crise sanitaire, mais qu'aujourd'hui, on va supprimer des congés, je pense que c'est très compliqué pour les collectivités qui n'ont pas anticipé. Donc nous, on a vraiment, vraiment été contents d'avoir anticipé cette mesure-là.
La loi de transformation publique votée en août 2019 par laquelle le gouvernement oblige les collectivités locales à mettre en place les 1607 heures de travail avant le 1er janvier 2022 est animée par des objectifs libéraux que, évidemment, nous ne partageons absolument pas.
Salut les camarades, alors là on est devant la mairie de Fresnes, une fois n'est pas coutume. C'est juste pour vous montrer que dans d'autres collectivités, il y a une forte mobilisation contre les 1607 heures et a raison.
Par cette loi, le gouvernement poursuit sa politique de casse du statut de la fonction publique, alimentant le discours détestable qui consiste à faire passer les agents de la fonction publique pour des privilégiés, dans un contexte où ils et elles ont prouvé leur engagement inestimable au service des habitants de notre ville.
Ça va pas pouvoir continuer comme ça. Là, les agents de Fresnes, ils sont devant la mairie. On va très rapidement vous donner le même genre de rendez-vous et j'espère qu'on sera nombreux devant la mairie. À bientôt les camarades, salut.
Ailleurs, effectivement, c'est parfois très compliqué, voire explosif. À Strasbourg ou Besançon, le dialogue social a démarré trop tard. À Toulouse, il patine. Et dans certaines communes du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, ce sont les maires eux-mêmes qui sont ouvertement réfractaires. Sans oublier les plans retoqués, comme à Paris. Encore trop de dérogations par rapport au cadre légal, dit la préfecture.
Association des maires de France, bonjour.
À l'Association des maires de France, le téléphone sonne, les villes demandent de l'aide. Muriel Fabre est la secrétaire générale de l'AMF.
Monsieur, ne quittez pas.
J'entends certains maires ne pas souhaiter le mettre en place. Pour autant, dans le texte, c'est bien clair, hein, cela s'applique. Donc la question ne se pose pas. J'entends aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir dans le cadre de ce dialogue social, parce que, je vous l'ai dit, ça remet en cause ce qu'on appelle les droits acquis. Et c'est vrai que le délai donné par la loi de transformation était très court. Et j'ai vu et j'entends aussi les référés préfectoraux qui sont en cours et la pression qui est mise par la ministre qui est la sienne. Je pense qu'il faut plus de temps, clairement.
Ça vous a étonné de voir que l'État retoque un certain nombre de plans de passage aux 1607 heures ?
Oui, ça m'étonne parce que ça ne rentre pas dans le dialogue que j'estime qu'on doit avoir entre l'État et les collectivités et entre le préfet et les maires. On est sur de l'humain. Je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas se retrouver devant un tribunal, mais bien être dans la discussion et le dialogue. Et effectivement, il y a un besoin de... Alors, j'aime pas cette notion de rentabilité de service public, parce que je pense que dans le cadre d'un service public, on est là pour la proximité, pour les gens, pour la vie, finalement, de l'ensemble des habitants d'un territoire. Mais c'est vrai qu'il y a un regard sur le fonctionnaire et sur le fonctionnariat dans son ensemble, hein, que ce soit vers la fonction publique d'État ou vers la territoriale, qui est quand même très... très négatif. Moi, j'ai le souvenir, hein, il y a 2 ans, on applaudissait les soignants à 20h. On mettait des petits mots sur les poubelles qui étaient ramassées en remerciant les gens qui le faisaient. Et tout cela, en fait, on a l'impression que ça a été oublié. Alors qu'ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils essaient toujours de continuer de rendre au mieux ce service public. Et je pense qu'il faut vraiment revoir cette image-là, c'est-à-dire à la fois redonner du sens pour le fonctionnaire, mais revoir l'image qu'a la société du service public et de l'agent public.
Les 35 heures dans les collectivités, la bataille n'est pas terminée. C'était le reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La ministre de la Transformation et de la Fonction publique est notre invitée. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Vous avez écouté le reportage avec nous. Alors on va faire le tableau. Déjà, c'est 35 heures dans les communes. Je lis que ça se passe bien, c'est fait dans 80% des cas. Qu'il y a 20% d'endroits où ça coince et que dans ces 20%, il y a 6% des maires qui seraient complètement réfractaires. Est-ce que c'est aussi votre photographie de la situation ?
La photographie, elle est effectivement celle que vous décrivez aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut qu'on regarde quand même le succès qu'est cette réforme. Ça fait 20 ans que la loi sur les 35 heures est connue de tous les Français. Et moi, j'y vois une réforme extrêmement importante, qui, comme votre reportage le montre, peut être une réforme réussie, et l'est dans la majorité des cas, parce que c'est une réforme à la fois d'efficacité du service public, mais c'est aussi une réforme qui permet de lutter contre une inégalité.
Est-ce que c'est aussi une réforme qui permet des économies ? C'est ce que voulait la Cour des comptes, hein, en disant si on fait passer les agents aux 35 heures, ça fait des économies.
C'est pas la Cour des comptes, c'est la loi qui l'a définie en 2019.
Mais est-ce que c'est le sujet aussi ?
Le sujet, pour moi, c'est la qualité du service public. Mais c'est aussi les inégalités, parce que entre agents publics, entre communes, entre agents publics des communes et de l'État, entre les salariés et les agents publics, il y avait quand même une inégalité qui n'était pas tolérable. Derrière, c'est aussi, et le reportage le montrait très bien, dans beaucoup de communes, ça a été l'occasion d'avoir une vraie grande négociation sur l'organisation, sur le temps de travail, sur effectivement beaucoup de communes qui ont aussi mis du progrès social. Votre reportage parlait de mutuelle santé et prévoyance. À Montpellier, par des systèmes de primes, c'est une très grande commune. Le maire a là aussi fait du vrai dialogue social et donc on a fait aussi un sujet à la fois de progrès et d'efficacité du service public. Et ce que je remarque, oui, c'est que ceux qui s'y sont opposés, après des années où ni la droite ni la gauche n'avaient fait cette réforme. Vous avez aujourd'hui d'ailleurs à droite des gens qui vous disent qu'il faut passer aux 39 heures. Mais on a envie de leur dire, déjà les 35 heures, pendant 10 ans vous étiez au pouvoir, vous ne l'avez même pas appliqué. Ceux qui s'y sont opposés ou qui s'opposent aujourd'hui, vous avez des gens qui se sont opposés pour des raisons politiques et politiciennes, et d'ailleurs des mairies qui sont aujourd'hui au tribunal puisqu'elles n'ont fait preuve d'aucune volonté de se conformer à la loi.
À qui pensez-vous ?
Il y a 5 communes de Seine-Saint-Denis, Montreuil, Stein, Bobigny, Noisy-le-Sec et Tremblay. Il y a la ville de Valence. Il y a effectivement le cas parisien. On a 7 communes aujourd'hui, en tout le pays, qui sont effectivement au tribunal. Après, il y en avait d'autres qui se sont dit « Le gouvernement ne va pas y arriver, donc si on ne bouge pas, ça ne va pas se voir. » si, ça se voit. Parce qu'on a une loi, on a un principe, et puis on a surtout 80% des communes qui s'y sont conformées. Reste un petit nombre de situations où les délibérations qui ont été prises ne correspondent pas à la loi. Là, les préfets, ils font preuve, je veux dire, de bonne intelligence et d'accompagnement. Le but n'est pas d'aller au tribunal pour tout le monde, mais on demande, et je pense que c'est dans l'intérêt des Français, du service public, et aussi des agents, que ce sujet, qui a plus de 20 ans d'âge, soit un sujet réglé. Alors, il est réglé dans 80% des cas, c'est ça que je voudrais valoriser aujourd'hui.
Alors, vous avez cité Paris, il est donc loin d'être réglé à Paris. Vous avez dit récemment que la maire Anne Hidalgo, qui est aussi candidate à la présidentielle, faisait de ce dossier un outil politique.
Oui, sauf que depuis, j'observe, un peu en catimini, avec beaucoup moins de fracas, je peux vous dire, c'est qu'en fait, la mairie de Paris fait appliquer la loi. Ensuite, il y a des jugements qui sont toujours en cours. Mais dans la réalité, en fait, la loi va s'appliquer. Et tout le monde le sait depuis le début de cette affaire. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait à un moment donné, il y avait beaucoup de postures. Et je pense que dans l'intérêt et des Français qui attendent du service public, évidemment, le service public qui est à la hauteur de ce pourquoi ils font République avec nous. Ils payent des impôts, on leur doit ce service public. Et dans l'intérêt des agents, on doit pouvoir, par le dialogue social, et c'est le cas dans l'immense majorité des cas, penser les organisations, penser le temps de travail, penser effectivement des enjeux de progrès social et de pouvoir d'achat sur lesquels on pourra revenir et qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Mais le but de tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand une réforme a 20 ans d'âge, il faut qu'on puisse avancer.
Mais vous leur laissez un délai ou pas ?
Je récuse l'idée que les communes n'auraient pas eu le temps. En 2019, quand la loi est promulguée en août 2019, il est clair pour tout le monde qu'elle s'appliquera au 1er janvier 2022. Cette date a été fixée pour que ça laisse du temps, après les élections municipales, à chacun de négocier. Je ne laisserai évidemment pas de temps en plus de ma décision. Localement, les préfets sont en train de faire en sorte que les choses avancent. Mais je ne vais pas, moi, annoncer qu'on reporte l'application d'une loi quand 80% des communes, aujourd'hui, s'y sont conformées. Ça n'aurait aucun sens.
Alors, le pouvoir d'achat. Amélie de Montchalin, durant ce quinquennat, il n'y a pas eu de revalorisation du point d'indice. Ça fait 5 années blanches, c'est la première fois. Les syndicats expliquent que les fonctionnaires ont globalement perdu 6% de pouvoir d'achat. Est-ce qu'ils ont tort ?
D'abord, je voudrais qu'on différencie deux sujets. Dans quelques jours, sur la feuille de paye des agents publics, il y a un moment de vérité important. Parce que se concrétise fin janvier 2022, beaucoup des réformes très importantes que nous avons menées depuis 5 ans, pour le pouvoir d'achat, et aussi pour lutter contre ces fameuses dépenses contraintes, les dépenses de santé en particulier, qui coûtent très cher aux Français et qui sont des enjeux majeurs. Après, ce qui est vrai, c'est que depuis des années, on avait un logiciel, au fond, de pensée du pouvoir d'achat des fonctionnaires qui ne tenait que dans le point d'indice. Et le point d'indice, ça ne résout pas tout. Parce que le point d'indice, ça veut dire quoi ? C'est que vous augmentez à un moment donné tout le monde du même pourcentage. Ça a deux défauts. C'est que d'abord, ça ne résout pas les inégalités qui s'accumulent au fil du temps, je vais y revenir, les inégalités entre ministères, les inégalités liées à des métiers en tension qui ne sont pas revalorisés, c'est ce que, je vais y revenir, nous avons fait. Et puis surtout, c'est un deuxième désavantage très fort, c'est que quand vous augmentez de, disons, 1%, le point d'indice, pour les agents les moins bien rémunérés, c'est quelques euros, c'est moins de 10 euros par mois. Et donc, vous n'aidez pas la revalorisation des personnels les moins bien rémunérés. Notre politique, avec le président de la République depuis 5 ans, elle a été très claire.
Vous avez fait du catégoriel.
Très cohérente, mais je pense surtout qu'elle a été efficace, elle n'était pas dans l'idéologie. On a dit deux choses. D'abord, on va résoudre les inégalités. Les inégalités liées au fait qu'on avait 1,2 million d'agents catégorie C, qui vont voir, là, au fin du mois de janvier, la hausse de pouvoir d'achat la plus importante qu'ils n'aient jamais vue, puisque c'est 40 à 100 euros de plus sur la feuille de paye des agents de catégorie C, là, dans quelques jours, parce que, précisément, nous sommes sortis de la vision où, pour augmenter les fonctionnaires, il fallait augmenter tout le monde du même pourcentage. Là, on a fait un choix, c'est concentrer nos efforts sur les moins bien rémunérés, sur les catégories C.
La deuxième inégalité que je voudrais poser 2-3 questions.
C'est les inégalités entre ministères, parce qu'on avait des gens qui faisaient le même métier, qui n'avaient pas les mêmes primes. Ça aussi, c'est 25 000 personnes qu'on va réégaliser. Et puis les inégalités, il y a des métiers oubliés. Les métiers de la santé, le Ségur, 10 milliards d'euros de revalorisation du Ségur.
Alors vous avez
les métiers d'aide à domicile, les métiers des policiers, les jeunes enseignants.
Vous avez augmenté les catégories C, les enseignants, les infirmiers. Oui, mais il y a quand même une inflation que tous les Français sont en train de vivre, tous les fonctionnaires de quelques catégories. Lorsque les candidats Jadot et Mélenchon promettent, eux, de faire l'augmentation générale, de dégeler le point d'indice, est-ce qu'ils sont complètement déraisonnables ?
Alors, évidemment, avec ce qu'on a fait, j'ai parlé des inégalités, on a aussi travaillé sur les dépenses contraintes, qui sont des enjeux de pouvoir d'achat majeurs. Je voudrais vous parler de ce qui se passera dans quelques jours, qui est l'accord historique qu'on va avoir sur la mutuelle santé des fonctionnaires. De l'État, 2,3 millions d'agents, avec qui, par le dialogue social, le dialogue social, ça peut marcher, ça marche d'ailleurs, ça permet d'avoir des résultats. On est en train de résoudre une inégalité majeure. Les salariés du privé, leur employeur leur paye 50% de leur mutuelle santé, les agents publics, c'était zéro. Là, dans quelques jours, cette semaine, on est en train de préparer un accord qui va dire, en 2022, on prend en charge 15 € par mois, et en 2024, ce sera 50% d'un panier de soins ambitieux. Et puis dans les dépenses contraintes, il y a aussi les dépenses d'énergie, d'où l'indemnité inflation. Après, là où je suis totalement d'accord avec vous, on a donc résolu ces inégalités urgentes. On a travaillé sur les dépenses contraintes. Est-ce que le système aujourd'hui, il est suffisamment attractif? Est-ce qu'il est suffisamment lisible? Est-ce qu'il donne assez de perspective? La réponse est non.
Ma question est, et est-ce donc, que dans le prochain quinquennat, il faudrait augmenter le point d'indice? Ou est-ce que ça vous paraît fou
dans
de
le prochain
dire
quinquennat, je pense, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on travaille, j'ai ouvert une conférence sur les perspectives salariales, parce qu'il faut qu'on rénove profondément ce système. Ce système, par la manière dont il est organisé, il faut qu'on trouve une manière d'avoir plus d'attractivité pour recruter, plus de perspectives dans la carrière, plus surtout de simplicité.
Alors,
et donc je pense, je vous le dis, que toute l'ambition qu'on doit avoir, c'est bien reconnaître qu'il y a légitimement des attentes, mais que si on se focalise uniquement sur le point d'indice, on ne résout pas vraiment le sujet, et surtout on ne peut ouvrir cette négociation telle qu'on la prépare qu'en ayant résolu ces inégalités flagrantes qui étaient devant nous et que ni la droite ni la gauche n'avaient résolu depuis des années. Hein.
Alors, ce que n'ont pas résolu non plus ni la droite ni la gauche depuis des années, c'est le nombre des fonctionnaires. Tout le monde a promis qu'il fallait les baisser. Personne ne l'a fait. En 2017, le candidat Macron voulait supprimer 120 000 postes, objectif abandonné. En 2022, Valérie Pécresse, elle veut mettre en place son comité de la hache et supprimer 150 000 postes. Qu'en pensez-vous?
En 2017, le président, il a dit « Je veux moderniser l'action publique ». Je veux la moderniser, je veux la rendre plus efficace, plus proche des Français. Donc faire sortir des agents publics des ministères et les remettre dans les départements sur le terrain proche des Français. C'est ce qu'on a fait pendant 5 ans. Simplement que quand vous regardez la France de 2022, les crises qui sont passées entre-temps, on a gardé la même logique, on ne s'est pas renié. Mais en voulant remettre des gens sur le terrain, on en a fait plus que ce qu'on imaginait en 2017. Et donc les plus et les moins, fait qu'on a le même nombre de fonctionnaires d'État en 2022 qu'en 2017. Simplement, ils ne font plus les mêmes métiers, ils ne sont plus au même endroit. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que tous ceux qui confondent la fin et les moyens se trompent. Le sujet, comme l'a dit le président de la République, mais c'est pas de compter les fonctionnaires comme des bâtonnets.
Oui.
C'est se demander s'ils sont au bon endroit. Est-ce qu'ils sont dans les commissariats? Est-ce qu'ils sont dans les tribunaux? Est-ce qu'ils sont dans les espaces
ceux qui
services
disent qu'on ne pourra pas résoudre le problème des dépenses publiques sans toucher au nombre de fonctionnaires?
Mais le sujet des dépenses publiques, c'est d'abord l'efficacité. Est-ce que, pour entre guillemets, pour les impôts que nous payons collectivement, nous avons les services publics que nous attendons? Nous attendons dans leur qualité, dans leur... Vous savez, je serai avec le président mardi en Haute-Vienne. Nous allons rencontrer des agents des 3 fonctions publiques. Nous serons dans un espace France Service, un lieu totalement nouveau, où les gens peuvent venir faire toutes leurs démarches, tous les services publics au même endroit. 2100 lieux en France où les services publics sont allés en proximité des Français.
Et cependant,
c'est cette efficacité-là, c'est cette modernisation-là qu'on veut. Et tous ceux qui rentrent dans le débat sur la fonction publique, sur le service public, uniquement par le prisme du nombre, je pense se trompe.
Et cependant, malgré ce nombre, je voudrais vous poser cette question. L'État fait de plus en plus appel aux cabinets de conseil privés. On l'a vu avec McKinsey et la campagne de vaccination. Au Sénat, en ce moment, il y a des auditions. Vous y avez été auditionné. Le président de la commission d'enquête explique qu'entre 2018 et 2020, la dépense totale pour l'État, pour ses cabinets conseils, a augmenté de 60%. Est-ce qu'il y a une dérive?
Alors, plusieurs choses là aussi. Les grandes années, vous savez, du recours au conseil, c'est exactement les années où Madame Pécresse, ministre du budget, vous expliquait qu'il fallait réduire le nombre de fonctionnaires. Donc c'était moins de fonctionnaires, plus de consultants.
Non mais 2018-2020, c'était le quinquennat Macron.
Dans mon ministère, je vous explique les choses, j'ai réduit divisé par deux, le recours au conseil par rapport à ce qui se faisait à l'époque sur la réforme de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait entre 2018 et 2021? On n'a pas augmenté de 60%. On a déjà évité une dérive budgétaire. On a mis des règles. Et donc, les dépenses de conseil hors conseil informatique ont été stables par rapport au dernier quinquennat. Après, aujourd'hui, 2022, devant les sénateurs, ce que j'ai pu annoncer, c'est parce qu'on a fait cette réforme de la haute fonction publique, on peut aujourd'hui créer des cabinets de conseil en interne à nos ministères, puisqu'on peut gérer nos compétences différemment, on peut recruter différemment. Et donc, j'ai posé une règle simple.
Ouais.
Par cette réforme, nous fixons la règle que quand on a les compétences au sein des ministères ou quelque part dans l'État, on n'a plus recours à des consultants extérieurs. Ça va nous permettre de diminuer d'au moins 15% les dépenses de conseil en 2022. Et c'est pour moi un enjeu, vous voyez, de crédibilité pour les Français, de crédibilité pour les agents.
Amélie de Montchalin.
Cette réforme, elle permet de faire des choses en interne et non plus en externe.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'en Arrête pas l'écho. Sandrine Foulon, Nabil vous a écrit, avec la crise sanitaire, il n'a pas pu poser l'an dernier 4 jours de RTT qu'il a perdu. Si ça se reproduit cette année, peut-il se faire payer ses jours, vous demande-t-il.
Alors déjà Nabil, il faut vérifier si l'entreprise pouvait vous supprimer ces 4 jours. À la différence des congés classiques, les jours de RTT sont des jours travaillés, un peu comme des heures supplémentaires. Si vous avez trop travaillé, l'employeur est censé transférer ces RTT sur un compte épargne-temps ou à défaut les reporter sur l'année suivante. Mais ça dépend aussi de votre situation. Soit votre convention collective prévoit une compensation pour les jours non pris et l'accord s'applique, soit il n'existe pas d'accord et là, ces jours non consommés peuvent malheureusement être perdus au 31 décembre, sauf si la mauvaise organisation de l'employeur vous a empêché de déposer vos RTT. À l'avenir, on comprend Nabil que vous aimeriez que ces jours soient monétisables, c'est possible, mais là encore sous certaines conditions. Dans la mesure où il existe un compte épargne-temps, vous pouvez y stocker des jours de congé, une partie des RTT et les transformer en euros sonnants et trébuchants. À terme, ça peut faire une jolie somme puisque la loi n'impose pas de limite en nombre de jours. C'est aux employeurs et aux partenaires sociaux d'en définir le cadre. Dans la fonction publique, en revanche, un compte épargne-temps ne peut contenir que 60 jours maximum.
Et s'il n'y a pas de compte épargne-temps dans le cas de... C'est le cas dans beaucoup d'entreprises comme celle de Nabil.
Ça reste possible, sous réserve Nabil, que vous soyez en forfait jour. La moitié des cadres et une minorité de salariés autonomes dans leur emploi du temps sont dans ce cas-là. Ils peuvent alors demander à se faire payer des jours RTT, pas forcément la totalité. Le repos reste obligatoire, renoncer à des congés, ça veut dire travailler plus et personne ne peut aller au-delà des 235 jours par an fixés par le Code du travail, sans compter les accords d'entreprise qui déterminent eux aussi un seuil annuel à ne pas dépasser. Mais à partir du moment où un salarié coche toutes les cases, l'employeur peut lui racheter ses RTT à un prix qui correspond à une majoration de salaire d'au moins 10%. Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, propose de pouvoir convertir les RTT en salaire sans aucune limite et surtout sans cotisation patronale. C'est du pouvoir d'achat en plus, mais du repos en moins. Un arbitrage pas toujours très simple, ni pour les salariés, ni pour les employeurs.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.